Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. En Hongrie, en Roumanie ou en Pologne, les juges sont désormais devenus les ennemis de gouvernements qui cherchent à affaiblir tous les contre-pouvoirs. L'Union européenne a beau rappeler à ses États les principes d'équilibre démocratique, les populistes font la sourde oreille, c'est le cas en Pologne. Le parti PiS au pouvoir nomme désormais les juges et ceux qui sont trop critiques du pouvoir passent devant une chambre disciplinaire. Tout le monde ne baisse pas la tête. C'est le cas d'une magistrate de Poznań, Monika Franckowiak, particulièrement visée par le pouvoir. Thomas Giraudot est allé la rencontrer.
Ces jours d'élection au sein de Justitia, les membres de l'association des juges polonais se retrouvent pour renouveler leurs représentants. Depuis l'arrivée du PiS au pouvoir fin 2015, Justitia se bat pour préserver l'indépendance de la justice et organise de nombreux événements sur le sujet. Monika Franckowiak nous a donné rendez-vous ici, dans la ville de Toruń, à près de 200 km du tribunal où elle exerce. Recevoir des journalistes dans son bureau de Poznań est de plus en plus compliqué. Cette juge, quadragénaire, très engagée, a commencé à critiquer ouvertement les réformes de la justice en 2017. Le retour de bâton est arrivé l'année d'après.
Nous avons décidé, nous, en tant qu'association Justitia, de participer à un festival de rock. Nous avons organisé une simulation de procès. On a été surpris, beaucoup de jeunes gens sont venus assister à cette fausse audience. Bien sûr, cela n'a pas plu au gouvernement. C'est la raison de ma première procédure disciplinaire. Un homme, nommé par le ministre de la Justice, a considéré que ce faux procès allait à l'encontre de la dignité des juges. Alors, il a demandé au président de mon tribunal d'avoir accès à tous mes dossiers, tout ce que j'ai traité depuis environ 4 ans.
Selon Monika, c'était un prétexte pour éplucher tous ces dossiers et trouver une faute de procédure.
L'officier disciplinaire a lancé une nouvelle procédure contre moi. Cette fois-ci, il me reproche le fait d'avoir mis trop de temps à écrire les attendus de jugement. J'aurais été en retard dans plus de 170 dossiers. Mais c'est un problème général dans tout le système judiciaire polonais. Je travaille au tribunal civil, le plus surchargé, où nous rendons le plus de jugements. Nous devrions écrire nos attendus maximum 2 semaines après la fin de chaque procès. À Poznań, à peine un tiers sont rendus dans les délais, parce que c'est juste impossible de les écrire aussi vite.
Monika Franckowiak estime n'avoir rien à se reprocher professionnellement, mais politiquement, elle dénonce sans relâche depuis 2 ans les réformes de la justice dans les médias polonais et étrangers.
Quelque part, je suis devenue une cible, une sorte de bouc émissaire. Pour mes procédures disciplinaires, je dois me rendre à Lublin. C'est très loin de ma ville de Poznań, à environ 6 heures de route. Cette situation est vraiment épuisante. Pour moi, le plus difficile, c'est de faire face à la diffamation. À la télévision publique, dans la presse de droite, favorable au gouvernement, le message est clair. Je suis une personne vraiment fainéante, un mauvais juge.
Mais toutes ces attaques n'ont pas fait taire Monika Franckowiak. Elle poursuit son combat pour une justice indépendante du gouvernement et du Parlement polonais. Pourtant, la juge de Poznań risque gros, comme le détaille Marcin Maciak. L'homme est professeur de droit à l'université de Varsovie, très impliqué dans la lutte contre les réformes judiciaires menées par le PiS. Il fait d'ailleurs l'objet depuis peu d'une procédure disciplinaire.
Il y a toute une hiérarchie de punitions, de sanctions. Il y a d'abord des appréciations défavorables dans votre dossier. Cela peut diminuer vos chances d'obtenir une promotion. Mais la condamnation la plus grave est l'exclusion de la magistrature. Normalement, vous pourriez alors trouver un autre métier, devenir conseiller juridique ou notaire. Mais pour cela, vous devez obtenir l'accord du ministre de la Justice.
Impossible de savoir combien de magistrats sont aujourd'hui visés. La Pologne compte plusieurs chambres disciplinaires locales et le gouvernement en a créé une nouvelle au niveau national. Aujourd'hui, il y aurait déjà plus de 200 procédures en cours dans cette chambre. Marcin Maciak.
Nous avons environ 10 000 juges en Pologne. Vous n'avez pas besoin de tous les attaquer. Il suffit d'en cibler 10, les plus influents, les plus connus. Ainsi, les autres y réfléchiront à 2 fois avant de prendre une décision qui peut ne pas plaire au ministre de la Justice. Il n'aura aucun problème à vous attaquer ou à rendre votre vie plus compliquée.
Comme de nombreux magistrats et universitaires polonais, Monika Frąckowiak et Martin Maciak espèrent que les réformes judiciaires du PiS seront annulées par la Cour de justice européenne. Elle a entamé deux procédures d'infraction contre la Pologne. À l'automne dernier, la Cour européenne a déjà fait reculer le gouvernement à Varsovie, l'obligeant à réintégrer les juges de la Cour suprême qui avaient été mis prématurément à la retraite forcée.
En Albanie, la réforme de la justice fait partie des conditions d'entrée dans l'Union européenne. Mais cela prend du temps et les réformes pour lutter contre la corruption et le clientélisme au sein des tribunaux peuvent aussi se transformer en règlement de compte politique. Bref, pas facile, comme nous l'explique depuis Tirana, Louis Seyé.
Avec cette opération main propre à l'albanaise, ce sont les profils des 800 magistrats du pays qui doivent être soumis à un ensemble de vérifications. Intégrité, compétences professionnelles, patrimoine et liens possibles avec le crime organisé, tout cela doit être passé au crible de nouvelles institutions indépendantes, le tout sous contrôle d'un expert international. Conséquence directe, de nombreux juges et procureurs ont préféré démissionner, et notamment ceux de la Cour constitutionnelle, considérés comme les plus puissants de l'ancien système. Cette réforme est régulièrement saluée par certains responsables européens, qui la désignent même comme un modèle à suivre. La Commission européenne a recommandé l'an dernier l'ouverture des négociations d'adhésion du pays en son nom. Mais sur le terrain, c'est une autre histoire. Près de 3 ans après la mise en route de cette réforme, à peine 15% des magistrats ont été réévalués et les nouvelles institutions prévues n'ont pas toutes été formées. Certains analystes critiquent la lenteur de ce processus qui devrait durer encore plusieurs années. Faute de magistrats, les tribunaux actuels connaissent d'importants dysfonctionnements. La Cour constitutionnelle, par exemple, n'est actuellement composée que d'un seul juge. Plus problématiques encore, certaines révocations de magistrats ont été critiquées pour leur manque d'impartialité.
Et en Turquie, le président Erdogan a limogé un tiers de la magistrature, 4000 juges depuis le coup d'État manqué de 2016. De quoi affaiblir encore plus une institution qui a subi des pressions sous tous les régimes. À Istanbul, Anand Lauer.
Le procès de la justice turque remonte à plusieurs décennies. Soumise au pouvoir politique, ou plutôt pendant très longtemps aux militaires qui contrôlaient le pouvoir politique, sous l'influence selon les époques de tel ou tel parti ou idéologie, infiltrée dans les années 2000 et 2010 par les fidèles du prédicateur Fethullah Gülen, les charges s'accumulent et les Turcs s'en plaignent, eux qui, sondage après sondage, affichent leur perte de confiance dans l'institution judiciaire. L'image de cette justice n'a pourtant jamais autant souffert que ces dernières années. Depuis le coup d'État manqué du 15 juillet 2016, le pouvoir politique a limogé plus de 4000 magistrats, accusés d'appartenir au réseau de l'imam Gülen et d'avoir infiltré l'institution dans le but notamment de s'en prendre aux ennemis de cette communauté. Plus de 4000 juges et procureurs limogés sur environ 14 800 en activité à la veille du putsch avorté, ça fait presque 30% de la magistrature purgée en quelques mois sans aucune voie de recours. Mais le problème n'est pas tant numérique. Depuis 2 ans, le Conseil des juges et procureurs, chargé notamment de nommer et révoquer les magistrats, ne cesse en effet de recruter de nouveaux juges et procureurs, à tel point qu'il devrait être environ 20 000 dans les tribunaux du pays d'ici la fin de l'année. Ce conseil tout-puissant est sous l'emprise quasi totale du chef de l'État, Recep Tayyip Erdogan, depuis l'adoption en 2017 d'un régime présidentiel fort. L'opposition dénonce la formation insuffisante des nouveaux juges et procureurs et surtout leur soumission au pouvoir. Soumission parfois consentie, un député d'opposition a publié mi-février la liste de dizaines de magistrats qui officiaient encore récemment dans les instances locales du parti de Recep Tayyip Erdogan. Soumission plus souvent forcée. Dans les procès des opposants du chef de l'État ou de putschistes présumés, les juges dont le verdict déplairait au pouvoir risquent d'être rétrogradés ou pire, soupçonnés à leur tour. Des dizaines d'exemples récents servent d'avertissement. Conséquence logique de cette justice de moins en moins juste, de moins en moins indépendante, les dossiers concernant la Turquie s'empilent dans les bureaux de la Cour européenne des droits de l'homme. L'an dernier, la Cour a reçu 7100 nouvelles requêtes en provenance de Turquie, classant le pays au 4e rang derrière la Russie, la Roumanie et l'Ukraine.
Will be proud to say, I am an European.
L'Europe au bord de la crise d'honneur avec le Brexit, dont on attend encore de multiples rebondissements sur la scène politique britannique. L'Europe qui se présente pour les prochaines élections européennes avec un vrai déficit d'image et pour cause, la crise de la dette publique puis la crise des réfugiés l'ont mise à rude épreuve et c'est le politique qui a sauvé la mise. C'est la thèse de Luke von Middelhaar dans son livre « Quand l'Europe improvise, 10 ans de crise politique ». Celui qui est aussi conseiller du vice-président de la Commission européenne répond aux questions de Catherine Roland.
On était vraiment mal préparé, créer une monnaie qui n'a pas d'outils de se défendre, créer un espace Schengen sans frontières intérieures, mais qui ne se préoccupe pas du tout de ses frontières extérieures. Là, on peut dire que c'est vraiment mal réfléchi à l'avance.
Vous rappelez qu'en 70 ans de paix et de prospérité, hein, il faut vraiment le rappeler, l'Europe s'est beaucoup occupée donc de croissance, beaucoup moins des questions de stratégie, de guerre, de citoyenneté. En fait, c'était vraiment une Europe de la règle. Et c'est là que ça a changé depuis ces 10 dernières années.
On a vraiment vécu un réveil politique ou géopolitique par rapport à des grandes questions. Il y inclut des questions de guerre et de paix, de sécurité, qu'on pense au rapport à la Russie, bien sûr aussi au terrorisme. Les Européens, depuis en gros la Seconde Guerre mondiale, avaient un peu pris des vacances de l'histoire avec un grand H. On vivait à l'abri des événements du vaste monde, grâce aussi à la protection américaine, dans une illusion que le monde entier allait devenir comme nous. Mais alors, le réveil a été d'autant plus rude. On n'a jamais vraiment posé la question de la frontière, puisque l'Europe d'après-guerre et des institutions bruxelloises, c'était bien sûr une belle tentative, mais d'abolir des frontières. Et alors, aujourd'hui, on a plein de différents frontaliers, qu'on pense à ce qui se passe en Ukraine, et puis des questions de la migration, les réfugiés, c'est aussi des questions de frontières où on se rend compte que voilà, nous vivons aussi dans un espace entouré par des voisins et on l'avait un petit peu oublié.
Justement, on l'avait peut-être oublié, mais là, aujourd'hui, on est obligé de remettre finalement le politique au centre de l'Europe. C'est quelque chose que les opinions ont tendance à oublier ou à ne pas voir, c'est l'importance du Conseil où siègent les États membres.
Lors des très grandes décisions, souvent controversées, qui ont dû être prises pour la zone euro, pour les réfugiés, c'était vraiment le Conseil européen des chefs d'État ou de gouvernement qui était en première ligne. Bien sûr, il y a les institutions à Bruxelles qui ont joué le rôle, la Commission, le Parlement européen, etc. Mais on sent aussi que ce sont les dirigeants nationaux, aujourd'hui Macron, Merkel, Theresa May, tant qu'elle est encore là, et les autres, qui se rendent compte que l'Europe, c'est pas uniquement un machin à Bruxelles autogéré, mais ça fait partie de leur vie politique nationale, française, allemande et autres, et qu'ils ont intérêt de s'en occuper. Toutes les grandes décisions, au moins dans la direction des choses, c'est décidé par, aujourd'hui donc, Emmanuel Macron et ses collègues, les chefs d'État et de gouvernement ensemble, qui prennent les grandes décisions. Là, je parle pas du quotidien, encore une fois, du prix de betterave, mais est-ce que, oui ou non, on va sauver la Grèce? Est-ce que, oui ou non, on donne encore des nouvelles exceptions à la Grande-Bretagne pour le Brexit? Comment est-ce qu'on va réagir à la Russie? Est-ce qu'on va prolonger les sanctions qu'on a depuis l'invasion de la Crimée? Tout ça, ça relève donc des sommets du Conseil européen, qui est une instance que la France a toujours voulu d'ailleurs et qu'il s'est imposé pour des raisons très naturelles, étant donné l'ampleur des questions. Ça nuance aussi un peu la fausse idée que l'Europe, ça veut dire forcément plus de pouvoir pour Bruxelles ou bien rien du tout.
Ne pensez-vous pas que l'Europe est fragilisée aujourd'hui par ces coups de boutoir de tous ces gouvernements nouvellement élus? Je pense notamment à l'Italie populiste extrême droite ou encore à l'Autriche.
Je pense pas que l'Europe dans son ensemble est nécessairement fragilisée par l'arrivée au pouvoir de ces mouvements. Et je pense par exemple à l'Italie. Maintenant, l'Italie, en fait, découvre aussi ce que signifie appartenir à l'Europe. Et le bras de fer qu'on avait un peu prévu sur le plan budgétaire entre Rome et la Commission de Bruxelles, en fait, n'a pas eu vraiment lieu, parce que même l'Italie de Salvini et Di Maio comprend les contraintes d'une appartenance à la zone euro.
Vous voyez, la chambre, tout communique.
C'est original. On peut s'asseoir.
Je vous en prie, c'est fait pour ça.
Des murs blancs, des meubles en bois clair, des lignes dépouillées. Voilà plus de 70 ans que le design scandinave influence nos intérieurs. Face aux géants finlandais et danois, les Suédois ne veulent pas être en reste. Le musée du design a donc eu cette idée fabuleuse d'organiser des visites de vrais appartements d'exception en vente à Stockholm. Visites qui sont ensuite consultables sur le net. L'un de nos correspondants en Suède, Frédéric Faux, s'est rendu sur place.
Quand vous entrez dans un appartement en Suède, eh bien, il faut laisser ses chaussures à l'entrée. Cet appartement-ci est typiquement suédois, d'abord parce qu'il est blanc, comme 90% des appartements en Suède, et les 10% restants sont gris. On n'a pas tellement de lumière du jour ici, donc on veut que les appartements soient les plus lumineux possibles. C'est un style minimaliste. Tout ce qui n'est pas caché dans les placards est volontairement exposé. Ça aussi, c'est très suédois. Tout ce qui est montré doit raconter une histoire, dire quelque chose sur qui vous êtes. Ce bougeoir, par exemple, est du designer suédois Klong, qui commence à être connu à l'étranger. La lumière est très importante dans un pays qui peut être très sombre.
Bienvenue au musée suédois du design, un musée présent sur Internet et qui se déplace au gré des plus belles maisons ou appartements mis en vente. Parmi les visiteurs, quelques-uns sont peut-être là pour acheter, mais beaucoup se contentent de regarder, de visiter. Pour Åsa Eriksson de Visit Sweden, l'organisme chargé de promouvoir la Suède à l'étranger, le design est une bonne façon de faire connaître son pays.
Nous savons que le public que l'on vise est intéressé par le design suédois et le mode de vie suédois. Et nous voulons montrer ce design tel qu'il est utilisé dans la vraie vie, en utilisant de vrais appartements et maisons qui sont à vendre. Car en Suède, c'est toujours possible de les visiter. On a un partenaire principal, qui est le principal agent immobilier en Suède, qui nous aide à trouver des maisons très spéciales meublées avec des objets intéressants du design suédois ou une architecture particulière. Il nous faut aussi la permission du propriétaire, mais tous ceux à qui l'on demande pensent que c'est une très bonne idée de montrer leur logement qui va faire ensuite partie du musée suédois du design. Donc il y a des heures pendant lesquelles tout le monde peut venir visiter. De toute façon, le plaisir de beaucoup de Suédois le dimanche, c'est d'aller visiter des maisons. On a voulu utiliser cette habitude, donc vous pouvez venir voir ces maisons si vous êtes en Suède en vrai. Ou si vous n'êtes pas là, vous pouvez les voir dans notre musée digital.
L'idée originale du musée du design s'appuie donc sur une pratique très ancrée dans les habitudes suédoises. Car la passion des Suédois pour leur intérieur se voit aussi dans les queues de visiteurs qui se forment devant les biens immobiliers à vendre. Des visites toujours signalées par de petites pancartes plantées dans le sol et que Nathalie Strand, agent immobilier, a l'habitude d'organiser.
On organise généralement ces portes ouvertes le dimanche et le lundi. Pendant 30 à 45 minutes, tout le monde est le bienvenu pour voir le logement, que vous soyez intéressé pour l'acheter ou que vous vouliez juste savoir comment vos voisins vivent. C'est un hobby pour beaucoup de gens.
Lors des visites, les logements sont d'ailleurs apprêtés comme des décors de cinéma. Pour cela, les Suédois font appel à des spécialistes comme Jasper, qui mettent en scène leur maison ou leur appartement dans l'espoir qu'ils plaisent au plus grand nombre et qu'ils se vendent au meilleur prix.
Mettre en scène un appartement à Stockholm, c'est devenu banal, alors que ce n'était pas le cas il y a 3 ou 4 ans encore. Les gens dépensent beaucoup d'énergie et d'argent pour essayer d'avoir le meilleur prix pour leur appartement, pour que le plus de gens possible se voient vivre eux-mêmes dans cet appartement. Quand une personne vient ici, vous voulez qu'elle pense « Ok, c'est mon nouveau chez moi, je veux être ici ». C'est vraiment une idée très intéressante de vouloir montrer comment les gens vivent en Suède. Moi, j'aimerais bien pouvoir faire la même chose à Paris ou à Londres, visiter la maison de quelqu'un d'autre.
À la seule différence qu'à Stockholm, à la fin de la visite, il est possible d'acheter l'appartement.
Alors, le prix de cet appartement est de 490 000 euros pour 59 mètres carrés.
Ces visites d'appartements sélectionnées par le musée suédois du design se déroulent jusqu'au 31 mai.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique podcast, puis Accent d'Europe, ainsi que sur les réseaux sociaux. On se retrouve dès demain. Restez à l'écoute de RFI.